Bonjour, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Alors aujourd'hui, nous avons traversé les océans, nous remontons dans le temps. Nous sommes au 19e siècle et en Océanie. Alors pourquoi l'Océanie ? Tout simplement parce que il y a 2 ans a eu lieu une exposition qui s'appelait Mer de Corail, Terre des Missions, qui a eu lieu entre le 3 avril 2005 et le 31 mars 2006, qui avait été organisée en partenariat avec le musée, je crois, de Balaguier et enfin le service historique de la marine de Toulon. Alors avec moi se trouve Lionel Rose Jourdan, qui est professeur d'histoire-géographie. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Antoine Temple, qui est ancien professeur d'histoire-géographie.
Bonjour Marion.
Bonjour Antoine. Et Corinne Babex, qui est bibliothécaire du service historique de la Défense, département marine, échelon Toulon. Bonjour Corinne.
Bonjour Marion.
Alors nous sommes tous les quatre rassemblés justement pour parler de cette Océanie vue par la lorgnette de certains missionnaires qui sont des missionnaires...
Qui sont les maristes.
Les maristes.
La congrégation des pères maristes.
Alors pourquoi cette exposition il y a 2 ans ? Alors, qui me répond ? Corinne ?
Cette exposition est en fait le fruit d'une collaboration. Déjà la volonté de 2 musées qui avaient des statuts différents, un musée municipal et une structure d'État, mais qui n'était pas une structure musée, de travailler ensemble et de travailler avec un musée d'une congrégation, la congrégation mariste, car il se trouve que dans notre région, nous avons toujours d'ailleurs des établissements dirigés par des maristes, et nous voulions expliquer pourquoi ces établissements s'était installé dans notre région. Et pour cela, il a fallu reconstituer toute cette histoire. Et nous avons travaillé en partenariat avec le musée mariste de la Nélière, qui se trouve dans la région de Lyon, qui nous a prêté une grande partie de ses collections, que nous avons donc divisées en 2, une partie pour le service historique, une autre partie pour le musée Balaguier, que nous avons développé certains thèmes. Ce que le musée Balaguier voulait montrer peut-être un peu plus que nous le souhaitions, c'était le fait que cette congrégation était aussi une congrégation d'éducation, d'enseignement, puisqu'il y a un établissement mariste sur la ville de la Seine-sur-Mer, qui est l'endroit où se trouve ce musée Balaguier. Et nous, ici à Toulon, au service historique, nous étions plutôt intéressés à l'aspect relation, mission, marin, et départ aussi depuis Toulon, puisque certains de ces missionnaires sont partis depuis Toulon. Donc la volonté était d'exposer ces objets, qui avaient un énorme avantage à nos yeux, c'est que très souvent, les objets qui étaient ramenés par les officiers de marine étaient des objets plutôt liés à la guerre, type casse-tête, alors que là, les pères maristes avaient pour nous l'avantage de ramener des objets du quotidien. Et ce que nous avons montré, c'est cela, justement, c'est ce qui permettait de faire l'éducation de ceux qui allaient partir après les premières vagues, montrer ces objets du quotidien, on boit telle boisson dans tel récipient, et nous avons pu montrer des objets qui étaient finalement pas forcément très connus. Je me souviens surtout d'une forme de pirogue. J'ai reçu un visiteur qui venait de Suisse exprès pour voir cette forme parce qu'il n'en avait jamais vu. Donc c'était vraiment les objets de tous les jours, et ça nous paraissait vraiment intéressant à montrer.
Quel impact ça a eu, cette exposition ?
Il me semble que nous avons eu de bons retours. Les critiques ont été plutôt positives. On a eu des chercheurs qui sont venus un petit peu de partout. La ville de La Seyne-sur-Mer a été enchantée d'avoir monté cette exposition parce qu'ils ont eu de très très bons retours. Et je crois qu'au niveau
près
des établissements
14 000 visiteurs. L'exposition a duré un peu moins d'une année. Et à Balaguier, la billetterie en témoigne, il y a eu près de 14 000 visiteurs payants. Donc c'est pour la région, je dirais, une visite tout à fait importante. Ça a eu un impact aussi au niveau des établissements, puisque c'était l'occasion de faire découvrir aux élèves des établissements, par des visites, je dirais, ces collections, mais aussi, évidemment, le musée de Balaguier et le service historique de la Défense à Toulon.
Alors ensuite, visiblement, ça a été la rencontre entre vous trois, cette exposition. Comment ça s'est passé ?
Oui, ça a été l'occasion de travailler ensemble, à la fois pour l'exposition, mais aussi pour le catalogue d'exposition. Donc un premier travail ensemble de rédaction. pour ce catalogue, hein, qui a obtenu aussi un franc succès. Et puis, petit à petit, on avait collaboré de façon très intéressante. On s'était dit que c'était quelque chose à faire à plus ou moins long terme. Et puis, j'ai été contacté par la congrégation, hein, par l'administration générale des Maristes, sur un projet d'édition de lettres des missionnaires d'Océanie.
Voilà. Alors ça, c'est le sujet principal de cette émission. C'est à propos de ces lettres maristes qui vont être publiées. Alors, parlez-moi de ce projet, Lionel.
Alors, ce projet, oui, c'est un projet important. C'est d'abord une volonté. C'est d'abord une volonté, celle de la congrégation, de rendre disponibles des sources documentaires qui sont d'un grand intérêt, mais qui, malheureusement, pour l'instant, ne sont pas accessibles. C'est un projet double, puisqu'il y a d'un côté une anthologie, mais aussi une édition complète. Il s'agit de lettres de missionnaires maristes en Océanie, écrites de 1836 à 1854. Ces lettres, donc, c'est une documentation, je dirais, très importante, hein, puisque c'est près de 8000 pages. Donc, rapidement, le projet donc, s'est orienté vers deux phases. La première, c'est l'édition de morceaux choisis, hein, pour une anthologie, mais aussi une édition, je dirais, complète, hein, limitée évidemment, pour les universitaires et les chercheurs. Mais peut-être que Corinne pourrait nous dire quelques mots sur le fond.
Oui, alors moi je pense que nous avons eu une véritable chance, hein, ce n'est pas toujours évident d'avoir comme ça sur une période très précise, puisqu'il là il s'agit du généralat du père Colin, hein, nous avons eu la chance d'avoir accès à la totalité des sources. Donc déjà ça c'est un premier pas qui montre aussi qu'aujourd'hui les archives de ces sociétés missionnaires s'ouvrent vraiment et qu'elles vont pouvoir être accessibles à la fois aux chercheurs, comme le disait si bien Lionel, parce que la totalité de ces lettres va être publiée, mais qu'elles sont aussi il va y avoir aussi la possibilité pour les curieux, tout simplement, d'y avoir accès à travers justement ces morceaux choisis qui nous permettaient finalement de faire le tour de la situation, mais en revenant toujours à l'essentiel. Pour moi, c'est vraiment une grande chance d'avoir accès à la totalité de ces lettres, parce que ce n'est pas si fréquent que ça. Hein. Nous qui travaillons dans un service d'archives, on sait très bien à quel point, quelquefois, il peut y avoir des lacunes. Et là, visiblement, la totalité des lettres avait été conservée, et montrant aussi donc, l'intérêt qu'avait eu cette congrégation de garder toutes ces traces. Hein. Les traces sont vraiment conservées dans sa quasi-totalité, ça c'est formidable, hein, pour un chercheur, pour un spécialiste. Et la deuxième remarque aussi que nous pouvons faire, c'est que finalement nous sommes dans une période où on peut finalement commencer à travailler sur la colonisation, la décolonisation, il y a moins de tensions et on peut donner accès à ces documents sans forcément y mettre trop d'annotations, donner le document brut finalement. Ça c'est quelque chose qui est à faire remarquer. Oui.
Peut-être un petit mot sur la méthodologie, Antoine.
À la demande de Lionel et du père Girard qui nous avait envoyé toutes ces 8000 pages, on a essayé de faire une sélection en travaillant de façon assez empirique et pas très rationnelle au départ. La première chose a consisté d'abord à les lire par des comités de lecture. Chaque volume a été lu par deux personnes qui ont fait une présélection à partir d'un organigramme sommaire.
Commun à tous les trois.
Commun,
enfin, à tous les quatre.
À tout le monde, à tous les lecteurs, demandant de tenir compte de l'ethnographie, de tenir compte des aspects historiques, des aspects maritimes. Il y avait toute une thématique comme ça qui avait été conservée, avec l'ordre évidemment de réduire à un certain nombre de pages compte tenu de l'ouvrage à établir. Et puis chacun s'est débrouillé comme il a pu. On a eu un certain nombre de lecteurs qui ont travaillé, certains d'origine étrangère, la plupart d'origine française. Et puis on a ramassé leurs informations et on s'est retrouvé avec ça en disant mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ? C'est petit à petit donc qu'a commencé à s'organiser un schéma de préparation de l'ouvrage et qu'on a commencé à être un peu plus raisonnable, avec l'avantage quand même que nous étions partis sur l'idée que nous devions être... comment dire, naïf, nous mettant à la place d'un public qui ne connaît rien au sujet. Et donc, on a essayé d'être les plus éclectiques possibles dans nos choix, sans aucun a priori historique, idéologique, intellectuel, religieux, quel qu'il soit. Et ce n'est donc que lentement que s'est dessiné quelque chose. D'abord, une organisation technique, combien de paragraphes, combien de thèmes à structurer, quel type de plan on pouvait imaginer. Et dans des réunions à trois, hein, les trois personnes qui sont ici, donc, qui étaient fort animées, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, on discutait longuement pour savoir si ça valait la peine de mettre cet article-là, s'il valait mieux prendre plutôt cette lettre-là, compte tenu des choix qui avaient été faits et de l'organisation générale qui en découlait. Ça a pris beaucoup de temps, c'était fort passionnant. Et c'était l'occasion pour nous d'apprendre des tas de choses, parce qu'on connaissait un petit peu l'Océanie par l'exposition, mais aucun d'entre nous n'était vraiment un spécialiste de la chose. Et ça a été l'obligation pour nous de nous mettre à des choses simples parfois, la géographie des lieux. C'est pas du tout évident de trouver dans une lettre le nom de Potiki, je pense à Potiki qui se trouve en Nouvelle-Zélande, d'aller le trouver sur une carte. C'est un petit village de rien du tout, et il faut batailler pour le trouver. Et de chercher de ci, de là. Mais alors, quel était ce bateau? Quel était cet officier de marine qui commandait? Quel était cet étranger-là qui intervient? C'est quoi le Marianne Watson qui appartient à ce centalier? Et c'est quoi un centalier? Etc., etc. Occasion de chercher dans tous les domaines des informations pour apprendre à connaître. Voilà. Et c'est fort de tout ça que... Dans la discussion, dans le débat, dans l'affrontement des idées, des propositions, toujours sympathique, hein, on ne s'est jamais tapé dessus, on a fini par organiser quelque chose qui prenait tournure, qui prenait corps, avec un vrai plan, avec une vraie structure, qui a donné lieu à l'anthologie en l'état. Du moins, à l'anthologie, à la partie purement choix des documents et par la suite mise en forme.
Est-ce que ça a été très très dur à faire, à se mettre d'accord, à trouver les lettres les plus intéressantes?
Honnêtement, non, c'est pas difficile en tant que tel, mais ça a demandé vraiment un travail de fond et de reprise, puisque par rapport aux sélections des différents lecteurs, quand les documents ont été sélectionnés par les deux lecteurs, hein, les mêmes documents sélectionnés par deux lecteurs étaient systématiquement adoptés. Pour d'autres, nous avons ensemble relu systématiquement les documents. Donc ça a été un travail, je dirais, de longue haleine. Difficile, non, mais de longue haleine.
Ça vous a pris combien de temps, à peu près?
On a pratiquement travaillé là-dessus 7-8 mois.
7-8 mois, pas tous les jours, bien sûr.
Pas tous les jours, c'est évident, mais avec même une fréquence de... De 2 à 3 séquences par semaine.
De 3 ou 4 heures à chaque fois.
Oui, c'est ça.
Donc c'était un travail important. Alors c'est une des parties du travail, puisque dans cette anthologie, qui doit comporter à peu près dans les 600 pages, hein, il y a 450 pages de documents. Donc nous avons repris ces documents. D'où les avons-nous repris? Il se trouve qu'on a quand même quelque chose qui nous a énormément facilité notre travail, à savoir tous ces documents ont déjà été, je dirais, récoltés par un mariste, le père Girard, qui lui a travaillé à partir des documents manuscrits. Hein, de ces documents, il a pris donc l'ensemble de ces lettres écrites par les et conservées donc dans les archives de la congrégation. Il en a fait une étude critique. Il y a tout un appareil critique, hein, jusqu'à indiquer, par exemple, les ratures dans les lettres, les omissions, jusqu'à décrire le trajet que la lettre a suivi depuis l'Océanie jusqu'à Lyon, qui était alors le siège de la congrégation. Donc ce travail-là, qui est un travail de père mariste, mais fait comme un véritable travail de bénédictin, finalement, hein, qui lui a pris de nombreuses années, nous a servi de base, puisque les lettres étaient déjà sur support informatisé. Hein. Donc je crois qu'on peut rendre hommage déjà au travail du père Girard, sans lequel, évidemment, nous n'aurions pu faire ce travail-là, puisque lui a travaillé justement pour l'édition complète. Il continue à le faire, hein, puisqu'il y a une édition complète, nous en avons dit un mot, qui est prévue, qui, elle, sera essentiellement pour les chercheurs et les historiens. Nous, notre projet, il est différent dans la mesure où il s'agit d'une anthologie, donc de morceaux choisis, et donc pour un public différent. Hein, ce public différent, évidemment, ce sont les gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir cette partie du monde à travers le regard des missionnaires maristes. Alors ce travail correspond aussi, évidemment, à la volonté de la congrégation, hein, de donner à voir, de faire partager ces documents. Ces documents constituent un fond riche dans la mesure où nous avons finalement assez peu de documents écrits sur l'Océanie au XIXe siècle. Nous sommes dans des pays, dans des territoires, hein, de tradition orale. Donc c'est vraiment vécu de façon très importante par les Océaniens comme des documents qu'ils attendent de leur propre histoire. Alors, histoire donc qui touche un ensemble de territoires océaniens, puisqu'il y a aussi bien des lettres de Nouvelle-Zélande, de Samoa, de Tonga, de Fidji, de Nouvelle-Calédonie, hein, de Wallis et Futuna, donc sur vraiment une aire océanienne étendue.
Est-ce qu'il y avait déjà, une empreinte coloniale au niveau, drapeau français planté sur les îles?
Non. On est dans un contexte tout à fait différent, mais peut-être qu'on en dira quelques mots tout à l'heure. Sur le contexte historique. Non. On est vraiment, ici, dans une situation assez unique, finalement, où les missionnaires sont les premiers, finalement, à s'installer de façon pérenne sur ces territoires, sur ces îles. Ça a été d'ailleurs, je crois, une des découvertes, et puis je crois que mes collègues peuvent en témoigner, vraiment de rentrer dans cette histoire de l'Océanie au XIXe siècle. Alors c'est certes un regard qui est celui de missionnaire, c'est vrai, mais je crois qu'on a appris à travers ces lettres, vraiment à apprécier la culture des Océaniens, à vivre avec les pères qui découvrent ces contrées, et finalement ça remet pas mal de choses en place. Et on évite de la sorte, quand on lit ces lettres, et d'où l'objectif évidemment de les faire partager, ça remet en cause des lieux communs que l'on peut avoir sur ces territoires, sur ces populations, hein, et sur l'histoire missionnaire aussi.
D'accord.
Je pense que le choix de la période 1836-1854 est vraiment très important, parce que justement on pourrait presque dire que c'est la période de pré-colonisation. La Nouvelle-Calédonie ne va être annexée qu'en 1853, donc on voit bien qu'on est juste avant l'annexion, et donc on est vraiment avec ces premiers blancs sur des territoires qui n'intéressent peut-être pas tout à fait encore les Français, les Anglais. On y est dans ces mers-là, on traverse cet océan, cet immense océan, mais on n'est pas encore vraiment très sûr qu'on va s'y installer. Et les missionnaires arrivent à cette période vraiment tout à fait particulière où on est présent, mais pas avec encore une véritable volonté de colonisation. Je crois que ça, c'est vraiment, ces dates sont vraiment, vraiment précieuses, 1836-1854, parce que ça nous situe à un moment où, justement, en plus, il y a peu d'écrits. Les officiers de marine commencent à arriver. On a les écrits du Mont d'Urville, par exemple, le voyage de 1837-1840. Mais c'est peu de choses comparé à ce que vont laisser les missionnaires, parce que les missionnaires, eux, ils restent. Quand ils arrivent en Nouvelle-Calédonie, ils sont quasiment les premiers blancs. Il y a eu un essai d'implantation par les protestants qui a très vite dégénéré. Et eux, ils vont rester. Voilà la différence essentielle qu'il y a entre les marins qui sillonnent, les centaliers, comme le disait Antoine, les différents commerçants. Hein. La différence, c'est que nos pères Maris, eux, ils viennent pour s'installer. Et ce sont vraiment les premiers, finalement, dans certains territoires, à venir pour rester.
Alors, qui sont ces maristes, finalement ?
Alors, ces maristes, les maristes, c'est une congrégation religieuse. C'est une congrégation religieuse qui est née en France, dans les monts du Lyonnais. Il faut replacer peut-être dans un contexte un peu plus large, qui est celui postérieur à la Révolution française, qui est celui de l'Empire et du début du XIXe siècle. C'est une période, de renouveau religieux important, avec la reconstitution de congrégations, la création aussi de congrégations nouvelles. Et parmi ces congrégations nouvelles, nous avons les Pères Maristes. Alors il y en a d'autres, on pourrait parler d'autres congrégations. Les Pères Maristes, donc, ils sont nés dans la région de Lyon. Ils naissent donc dans le début du XIXe siècle, hein, puisqu'il s'agit au départ de séminaristes au grand séminaire de Lyon, Saint-Irénée, qui en 1816 font le vœu de ce vœu collectif, donc à la chapelle de Fourvière, hein, à l'époque il n'y a pas encore la grande basilique, c'est beaucoup plus tardif, de créer une congrégation sous la protection de la Vierge. Ces aspirants maristes, hein, puisque c'est 1816, c'est un acte privé, hein, il n'y a pas de reconnaissance, ils vont être dispersés, étant séminaristes et après prêtres, dans le grand diocèse, l'archidiocèse de Lyon, notamment pour certains dans la région de Belley, hein, dans l'actuel département de l'Ain. Dès les années 1825, ils sont notamment à Belley. Ils sont à Belley où ils vont certains prendre des responsabilités au petit séminaire de Belley. Alors vous allez penser que je m'éloigne du sujet, eh bien pas du tout. Pourquoi ? Parce que à Belley, ils vont dans un premier temps faire des missions, être missionnaires, mais dans les campagnes, dans les villages. Première expérience missionnaire. Puis, assez rapidement, prendre des responsabilités, notamment en 1829, c'est la direction du petit séminaire de Belley. Et on voit déjà se mettre en place pour la congrégation, je dirais, les grands axes de son apostolat, hein, les missions auprès des fidèles, l'éducation dans l'enseignement secondaire, et en même temps le désir, comme toute congrégation qui se crée, à savoir d'être acceptée, d'être officiellement autorisée par Rome. Et c'est dans ce chemin, je dirais, qui sera semé d'embûches que va apparaître l'Océanie, puisque différentes demandes vont être faites auprès des autorités romaines. Les premières, malheureusement, sans grand résultat. Je pense notamment au voyage en 1833 du père Colin, qui est le fondateur des Maristes, hein, 1833. Un voyage qui n'est pas, une grande réussite, puisque la congrégation n'est pas autorisée. Elle le sera en 1836. Elle le sera en 1836 dans des circonstances, je dirais, par certains côtés, assez amusantes. Il faut savoir que ce pontificat à Rome, on commence à avoir un intérêt certain pour les missions d'Océanie. Missions d'Océanie dans lesquelles on a déjà des missionnaires en Océanie, mais pas des missionnaires catholiques, des missionnaires protestants. Il s'agit donc pour la papauté de veiller à arrêter en tout cas, ou de restreindre, de contenir cette avancée des protestants. Donc il faut envoyer des missionnaires. Il faut envoyer des missionnaires et donc on va se tourner. On va se tourner, par une histoire qui serait un peu longue à évoquer ici, mais on va se tourner finalement vers les maristes. Les maristes, de leur côté, cherchent la reconnaissance officielle de Rome. Ils cherchent cette reconnaissance et il se trouve que par un heureux hasard, dans les congrégations, la sacrée congrégation de la propagande, donc, cherche des missionnaires. L'autre congrégation romaine qui s'occupe de l'autorisation des religieux a sous le coude, je dirais, le dossier des maristes. Et puis, vous avez certaines éminences qui siègent dans les deux congrégations. Hein. Je rappelle que les congrégations, quand on parle de congrégations romaines, il s'agit de l'équivalent de nos ministères français. Et c'est par ce biais-là, finalement, qu'on leur dit, écoutez, nous avons besoin de missionnaires pour l'Océanie. Vous voulez être autorisés comme congrégation reconnue donc officiellement par Rome, de droit romain, acceptez les missions d'Océanie. Et c'est comme ça que les maristes au départ, Quine et Colin, leur fondateur en particulier, ne pensaient pas du tout aller, jusqu'en Océanie ou ailleurs, dans des missions, auprès des infidèles, comme on disait alors, va se charger de cette mission d'Océanie. Nous sommes en 1836. Le texte officiel, c'est le bref Omnium Gentium qui établit la congrégation.
Est-ce qu'il y a des confrontations entre d'autres congrégations qui auraient voulu justement obtenir cette autorisation d'y aller ?
Non, pas du tout. Non, on manque de personnel à l'époque. L'Océanie, il y a déjà la présence sur une partie alors de l'Océanie. Il y a déjà la présence de deux pères des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie, hein, plus connus sous le nom de pères de Picpus, qui eux sont dans la partie la plus à l'est, hein, au niveau de Hawaï, au niveau des archipels, des Marquises.
Hein. Donc c'est plus la Polynésie.
Territoire polynésien, mais pour ce qu'on appelle, l'Océanie occidentale à l'époque, et qui deviendra assez rapidement l'Océanie centrale, il n'y a pas de missionnaires disponibles. Hein. Traditionnellement, évidemment, à l'époque, on envoie des congrégations, des membres des congrégations, pas des membres du clergé diocésain. Donc c'est excessivement loin. Hein. Il faut rappeler quand même que les communications sont difficiles. Et puisqu'on parle de lettres, il faut savoir que quand certains pères écriront dans les premières années des lettres, entre le départ de la lettre et la réponse qu'ils peuvent espérer, peuvent s'écouler parfois 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est partir au bout du monde, partir aux antipodes, et c'est ce projet-là qui va être donc, donné aux maristes.
Alors comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un choix particulier d'hommes au niveau des maristes pour y aller ? Comment est-ce qu'on sait comment ils y vont ? Est-ce qu'ils sont demandeurs ou alors on les oblige à y aller ? Comment ça se passe ?
Ils sont tous demandeurs, systématiquement demandeurs, et n'obtiennent pas toujours satisfaction. C'est le père Colin qui centralise tout et qui choisit les hommes qu'il envoie. Dans certains cas, il les met, à l'épreuve. Je pense à un père qui a demandé à y aller et qui a attendu 10 ans. On lui a donné ordre de rester 10 ans dans le diocèse où il exerçait son ministère avant de lui donner l'autorisation de partir. Et pendant 10 ans, obéissance oblige, il est resté dans son diocèse avant de pouvoir partir. 10 ans, c'est long.
C'est long, oui. Hein,
ceci dit, le père Colin choisit toujours des hommes quand même très confirmés sur le plan de la qualité morale, spirituelle et des vertus disciplinaires très fortes qu'exige ce genre d'activité. Et il s'adresse toujours à des gens jeunes. La plupart d'entre eux partent entre 25 et 30 ans. Rarement plus et jamais moins.
Alors ces hommes, quand ils arrivent, ces missionnaires, quand ils arrivent en Océanie, qu'est-ce qui les étonne le plus au début? Quelles sont les difficultés, les étonnements? Comment ça se passe?
Alors, en tout cas, pour les premiers, quand ils partent, ils n'ont de l'Océanie qu'une connaissance très limitée. Alors, on connaît évidemment le voyage du Dumont d'Urville, quelques autres voyages de Cook, plus anciens ou d'autres, mais ça reste évidemment limité. Le premier départ, d'ailleurs, de 1836, sous l'autorité de Monseigneur Pompalier, quand les maristes donc arrivent en Océanie, d'ailleurs, ils ne savent pas vraiment où s'installer. Hein. Donc, il n'y a pas de préparation en tant que telle. On a la foi, on part, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. Alors, il est évident qu'ils arrivent dans un monde qui est complètement différent. Ils arrivent en plus, je dirais, puisqu'il faut tenir compte des rivalités religieuses avec les protestants. Alors, je dis protestants au sens large, puisqu'il s'agit aussi bien d'anglicans, de luthériens, hein, des différentes églises protestantes. Donc, il faut s'installer là où les autres ne sont pas encore installés. Et ce sont, évidemment, souvent les territoires les plus difficiles, hein, ceux qui ont eu le moins de relations avec les Européens, marins, ou commerçants ou missionnaires. Leur terrain d'action, c'est cette Océanie centrale qui comprend notamment la Nouvelle-Zélande. Ce sera d'ailleurs le siège de Monseigneur Pompalier qui dirige la mission, mais aussi Wallis, Futuna, Tonga, Samoa, puis Fidji. Des territoires qui appartiennent, ils ont sous leur autorité, hein, même s'ils ne pénètrent pas dans tous ces territoires, je dirais à la fois des territoires qui dépendent de qui sont des territoires polynésiens, hein, mais aussi des territoires micronésiens, ils iront assez peu finalement en Micronésie, mais encore des territoires mélanésiens. D'un point de vue culturel, je dirais que la découverte avec le monde mélanésien se fait parfois dans des conditions particulièrement difficiles.
Alors là, je suis un peu candide, mais quand ils arrivent en Océanie, bon, ce sont des territoires qui sont très très vastes. Quel est le point de départ finalement, on les dépose à quel endroit? Là, vous me parlez de la Nouvelle-Zélande, mais on les dépose où? Parce que comment ils se répartissent finalement?
Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, c'était assez simple, puisque les Anglais et les protestants y étaient déjà installés. Donc, installer une mission ne pouvait se faire que dans un port déjà accessible et connu de la navigation et des Européens. Et donc, ils arrivent au nord de la Nouvelle-Zélande, s'installent à Okeanga, sur la pointe nord de la Nouvelle-Zélande, côté sud, et du côté nord, sur Baie des Îles. Hein, ce sont des noms qu'on retrouvera facilement sur une carte encore de nos jours. Là, c'était assez facile. Ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque Monseigneur Pompalier est parti, Lionel vient de le dire, ils ne savent même pas où ils vont. Et ils se renseignent au fur et à mesure. On lui répond que là, on lui interdit de s'installer. Hein, il avait l'intention de s'installer, par exemple, à Ponapé, l'île de l'Ascension, s'appelle, et on lui fait savoir qu'on lui interdit le séjour parce que les protestants le lui refusent. Et curieusement, s'il décide de laisser deux missionnaires à Wallis et Futuna, c'est presque par hasard, c'est parce que les missionnaires ont refusé de les voir s'implanter à Samoa, et les missionnaires protestants ont refusé de les voir s'implanter au Samoa, et leur ont dit, mais tenez, allez à Wallis, avec... Derrière la tête, l'idée qu'il y avait déjà eu pas mal de massacres de blancs dans cette île, pour des raisons multiples de gens pas toujours très glorieux, et que c'était peut-être l'occasion de se débarrasser des maristes. Alors c'est plus par hasard qu'on a laissé le père Bataillon, qui deviendra monseigneur Bataillon, à Wallis, qu'autre chose. Et le choix s'avérera, hein, des fois, parmi les plus judicieux qui aient pu être établi. Mais c'est tout à fait involontaire au départ. Je voudrais ajouter ces quelques remarques. Monseigneur Pompalier, quand il est parti et qu'il laisse le père Bataillon à Wallis et Futuna, ne se rend pas très exactement compte du territoire gigantesque qu'on lui a conféré. Il s'installe en Nouvelle-Zélande, il ne pourra revenir à Wallis qu'après la mort du père Chanel, et 3 ans plus tard. Il va prendre contact avec les deux pères qu'il a laissés sur le territoire. C'est fort loin.
Près de 2500 kilomètres, hein, séparent les différentes implantations des maristes. avec les problèmes évidemment de communication que cela suppose, puisque dans un premier temps, ils sont complètement dépendants des navires qui veulent bien les transporter. Alors, navires qui parfois les transportent, je dirais à titre gracieux, notamment les navires de la marine royale, mais parfois il faut emprunter d'autres navires, notamment de commerçants britanniques, et là il faut évidemment payer ces passages. C'est d'ailleurs une des questions qui va se poser, mais c'est la mission n'aurait-elle pas intérêt finalement à avoir sa propre flotte avec le développement de celle-ci ?
Donc, le territoire est si vaste qu'il faut finalement le diviser en plusieurs vicariats. Nous dirions plusieurs diocèses, pour parler plus simplement. Et à partir de là, on va avoir donc le père Bataillon qui va devenir évêque de l'Océanie centrale. Monseigneur Pompalier restera évêque pour la Nouvelle-Zélande. Et le jeune père Douard sera chargé de la Nouvelle-Calédonie. Et bien, le cas de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement intéressant. Où aller en Nouvelle-Calédonie ? Entourée de barrières de corail qui sont réputées extrêmement dangereuses, l'île fait presque 2000 km de long, de circonférence au moins. Et on va s'implanter là où on pourra passer. Là où on trouvera une passe qui permet enfin d'aborder quelque part. Et on arrivera comme ça dans un village qui s'appelle Balade. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 200 habitants. C'est de la plaisanterie. On ne sait même pas du tout quelles sont les populations qui y existent. Et on débarque là. Et puis bon, il y a quelques indigènes. On va évangéliser ces indigènes. C'est la première fois que des Européens mettent le pied à terre définitivement en Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait jusque-là eu aucune implantation vraiment importante. C'est à la pointe nord de la Nouvelle-Calédonie. Il y a tout à faire. C'est parti. Avec des moyens absolument incroyablement minces et en arrivant où on peut.
Alors comment ils sont perçus, ces maristes, chez ces peuplades océaniennes ?
Dans un premier temps, en tout cas, je dirais qu'ils sont perçus comme Européens, avant tout comme Européens. Il faut savoir que selon les territoires, l'évangélisation, entre guillemets, ne commencera que plus tardivement, ne serait-ce que d'un point de vue pratique, car leur premier travail, c'est d'abord d'essayer de se loger, de se nourrir. Il y a des lettres de la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, qui sont, je dirais, très parlantes à ce niveau-là. Je peux peut-être vous en lire un petit extrait. Un petit extrait qui présente ces difficultés en territoire calédonien, puisqu'ils vont souffrir, je dirais, de la faim. Ils vont subir les attaques de certaines tribus. C'est mieux, je crois, d'évoquer directement avec eux. Je pense notamment, un courrier ici de Guillaume Douard. Donc Guillaume Douard, Monseigneur Douard, est responsable de la mission de Nouvelle-Calédonie. Voilà ce qu'il écrit. Nous sommes en 1844. L'extrême dénuement de vos enfants a été lui-même péniblement affecté. Ils ont pour pantalon des espèces de sacs et c'est avec leurs draps de lit qu'ils les ont composés. Depuis 3 ans, le frère Attal est sans chapeau et sans souliers. Ils vivent non point comme les sauvages, qui ont des fruits en abondance, mais bien plus mal encore, puisqu'ils n'ont en quelque sorte que ce que les naturels ne veulent pas, ou des fruits qu'ils donnent à leur porc. Donc, c'est une lettre, attention, c'est une lettre qui a été écrite, je dirais, pour le père Colin, qui est le supérieur général de la congrégation. Il ne s'agit pas d'une lettre destinée à être publiée, je dirais, à ces récits, parfois, et souvent même hagiographiques, que l'on va trouver notamment, je pense, dans les publications des annales de la propagation de la foi, etc. Donc c'est un courrier interne, administratif, je dirais presque. Et on voit ici les conditions de dénuement extrêmes. Alors, problème, évidemment, il faut se loger, il faut se nourrir. C'est aussi pour certaines des îles, pas toutes, mais pour certaines en tout cas, on est près de l'équateur, avec les problèmes climatiques que cela suscite. Les fièvres reviennent. Dans nos très nombreuses lettres, on parle des fièvres qui attaquent tel ou tel père. Un certain nombre, d'ailleurs, mourront de maladies, donc de fièvres. D'autres, parfois, de morts violentes. Et puisqu'on est en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas ne pas évoquer Blaise Marmotton, qui est un frère mariste, alors qui est tué non pas en haine de la foi ou des catholiques, mais qui est tué simplement parce que c'est une période de la Nouvelle-Calédonie qui subit, je dirais, une situation très difficile d'un point de vue alimentaire et où les tribus attaquent la mission tout simplement pour s'emparer des réserves de nourriture qui y sont disposées. Voilà, donc leur premier travail, c'est vraiment celui d'essayer de vivre et puis aussi d'apprendre les langues. Et les langues océaniennes, pour des religieux formés en Europe, je dirais au latin et au français, c'est évidemment une tâche difficile. Donc l'évangélisation ne viendra, je dirais, qu'après. Et finalement, c'est peut-être une chance. C'est même sans doute une chance, puisqu'il s'agit d'abord de vivre avec les populations. Très rapidement d'ailleurs, quand ils peuvent soulager ces populations avec leurs faibles moyens, ils le font. Hein. C'est ainsi qu'on demande souvent dans les lettres tel ou tel produit pharmaceutique. On demande des frères qui aient quelques notions de médecine. Et assez rapidement, ben, notamment les frères dans l'émission se font charpentiers, menuisiers ou infirmiers. Vivre avec les populations, se faire accepter, ça sera leur premier travail. L'évangélisation ne viendra qu'après.
Est-ce qu'ils ont leur libre arbitre ou alors ils ont des directives qui leur arrivent, je dirais pas quotidiennement puisqu'il faut attendre les bateaux, mais par exemple lorsqu'un bateau arrive, est-ce qu'il y a des directives qui viennent du Vatican, comment ça se passe?
Non, il faut pas imaginer le monde
on
de
les
mission.
Abandonne, ou on les abandonne par exemple?
Non, on ne les abandonne pas, mais en tout cas c'est vrai, la difficulté des communications rend difficile évidemment l'envoi de circulaires ou d'informations. Il faut bien voir qu'en Europe on connaît peu ses missions. Donc ce sont avant tout les pères d'Océanie qui écrivent à leurs supérieurs pour demander telle ou telle chose, tel renseignement. Mais c'est eux qui donnent des informations. Ils ont une attitude, on dira, pastorale, qui est excessivement large. Hein, les seules questions parfois qu'ils envoient sont des questions d'ordre, je dirais, théologique ou de doctrine. Est-ce qu'il faut, dans quel cas, baptiser ou non? Mais après, ils ont une latitude, je dirais, très grande, finalement, dans l'organisation de la mission. On passera d'ailleurs un peu plus tard à organiser les choses de façon un peu plus claire avec un statut pour les missions, puisqu'assez rapidement, c'est vrai, ce qui va, je dirais, causer du tort à la mission finalement, c'est que, ben notamment, comment gérer les relations pour des pères qui sont des missionnaires, mais aussi des religieux, sous l'autorité notamment d'évêques, Monseigneur Pompalier qui est responsable de la Nouvelle-Zélande. Alors qui a autorité finalement? Est-ce le supérieur général de la congrégation ou est-ce l'évêque sur place? Et il y aura quelques conflits d'intérêts à ce niveau-là, puisque chacun regardant, je dirais, pas de malhonnêteté, mais regardant avant tout, je dirais, d'où il est. Il est évident que pour l'évêque de Nouvelle-Zélande, c'est pouvoir disposer ses prêtres, je dirais, sur un maximum de postes ou de stations pour pallier l'implantation des protestants, alors que, ben, vu de France, le supérieur général de la congrégation veille, je dirais, au salut et à la situation de ces religieux, en ne voulant pas qu'ils vivent seuls. Ce sont des religieux, ils doivent donc vivre en communauté. Et on comprend mieux parfois les déchirements, hein, les difficultés qu'il y a pu avoir entre, d'un côté, sur place, l'autorité épiscopale et puis le supérieur général en France.
Ils sont environ combien en Océanie? Ils sont répartis, parce que vivre en communauté, vous me dites que c'est sur des étendues énormes.
Alors oui, vivre en communauté, ça veut dire être je dirais, au minimum deux.
Au minimum, hein, deux.
Voilà.
Ou au maximum deux.
Il faut savoir que c'est aussi souvent le maximum d'ailleurs, mais pas seul en tout cas. Il y a une latitude, quand même, une petite latitude d'adaptation, enfin, un peu selon les conditions qui sont particulières. Mais il faut savoir à peu près que sous le généralat du Père Colin, donc de 1836 à 1854, ce sont à peu près 117 missionnaires qui sont envoyés en Océanie. Hein.
117
missionnaires, tout compris. Hein, 117 missionnaires.
Sur une période de combien?
Sur la période, alors exactement, de 1836 à 1849.
D'accord.
Hein, puisqu'il faut savoir que les départs seront stoppés en 1849 et ne reprendront qu'après 1854. 1854, c'est, je dirais, la fin de la direction de la congrégation par son fondateur, le Père Colin. Hein. Donc finalement, 117 hommes, c'est pas énorme, c'est vrai, pour ces grands territoires, mais c'est un effort consenti par la congrégation énorme. C'est une toute jeune congrégation, hein, toute jeune congrégation. Donc c'est vraiment une partie importante de ses forces. Et puis, comme on a pu le dire par ailleurs, je dirais qu'on prend, entre guillemets, les meilleurs. Hein. Alors, on peut voir le mot dans les différents sens du terme, pour l'Océanie en tout cas. Donc c'est un effort consenti qui est vraiment très important.
Vous pouvez ajouter que sur les 117, il y en a plus d'un tiers qui se fait massacrer, qui sont répartis quand même sur plusieurs archipels, et que donc dans la plupart des cas, au mieux, ils sont, pour les Samoa par exemple, 6, pour Tonga, 4.
Alors les massacres, on en avait parlé tout à l'heure, vous disiez que c'était uniquement des problèmes alimentaires, moment de famine pour la Nouvelle-Calédonie, c'est ça?
Oui, alors effectivement, sur les, sur les effectifs qui sont envoyés, il y a une partie des pères qui décèdent, alors à la fois de massacre, à la fois de maladie. Hein. Pour ceux qui sont massacrés, je pense notamment à Épale. Épale est envoyé vers les territoires mélanésiens, il est massacré au premier contact avec la population. Hein. Il faut bien voir aussi que pour ces populations, voir arriver, certains n'ont jamais vu d'Européens, et c'est le cas notamment ici, avec quand Mgr Épale est martyrisé. Donc ça reste un choc avec eux, ils ne savent pas que dans quelles conditions ces hommes viennent, quelle est leur volonté. Donc les contacts sont parfois difficiles. Alors il peut y avoir évidemment le cas de famine ou autre qui incite à attaquer, et puis simplement après des guerres. Hein. La guerre fait partie, en tout cas, des pratiques courantes parmi ces populations d'Océanie. Guerre tribale souvent, assez violente. Hein. Les pères, étant sur place, ont parfois eux aussi à faire les frais de combats entre tribus. Hein. Même s'ils essaient d'ailleurs assez rapidement de jouer les médiateurs, hein, et même dans le cas, de massacres comme c'est le cas avec Épale, la Marine nationale souhaitait, parfois, c'était la règle à l'époque, mener une expédition punitive, mais les maristes refuseront systématiquement toute expédition punitive contre les populations. Il y a vraiment, en ce sens-là, je crois, vraiment un don de soi dans la mission qui est assez remarquable. On est là, et puis, si on doit y laisser notre vie, ça fait partie, de notre mission. C'est les risques du métier.
Alors, est-ce que ces lettres, est-ce qu'elles portent sur leur spiritualité? Est-ce qu'elles portent sur la description des lieux, la cartographie? Est-ce qu'elles parlent d'ethnologie, finalement, de description de ces peuplades? Comment ça se passe?
Je crois qu'on aborde dans les lettres des sujets qui sont vraiment très différents. Hein. Alors, on parle d'ethnologie, évidemment, mais pas simplement. Et on l'a d'ailleurs voulu dans le choix, on a voulu dans notre choix, faire partager l'ensemble de ces thématiques abordées.
Alors, par exemple, vous avez, comme thème qui ont été retenus, mythologie et coutumes océaniennes, c'est assez normal pour un public. Rivalité avec les protestants qui apparaissent très fortement. Les difficultés et les succès de la mission. La vie quotidienne des missionnaires. Les problèmes très importants de navigation, de naufrage, de perte de biens ou d'hommes en mer, etc. Et puis la longueur des trajets qui est absolument épouvantable et les coûts. Naufrage et relations avec le monde maritime, les relations bien entendu avec la marine et avec les personnalités politiques qui peuvent exister dans le pays. Bien sûr, la recherche de la compréhension de la géographie des îles, les relations avec la diplomatie. Parce que ça s'avère fort important pour résoudre les problèmes et pouvoir subsister dans bien des cas. Et puis les rencontres que l'on peut faire avec d'autres types d'hommes. Dans l'affaire aussi, nous avons relevé, et le lecteur, s'il fait attention, s'avisera de ça. Et c'est très important, cette espèce de filigrane qu'il y a dans l'ouvrage, à chercher un petit peu derrière les fagots, les comportements des Océaniens vis-à-vis des Blancs. Premier type de comportement, c'est « ils viennent du ciel ». Ils viennent du ciel sur leur grande pirogue. L'horizon se confond avec le ciel, les navires à voile arrivent. Donc ils sont complètement sacralisés, de façon assez extraordinaire. Mais déjà, les indigènes connaissent aussi les chasseurs de merles, c'est-à-dire des gens qui viennent faire des esclaves pour l'Australie. Ils connaissent les santaliers, ils connaissent les gens qui font de la pêche à la baleine ou au phoque, la plupart étant américains. Ils connaissent les beachcombers, souvent des forçats évadés ou des gens qui ont quitté leur navire et puis qui font fortune comme ils peuvent, plus ou moins en association avec les indigènes. Et donc, il y a une relation aussi d'hostilité aux Blancs. Et le père mariste qui débarque, il est surprenant parce qu'il ne se comporte pas comme eux. Même pas comme certains pasteurs protestants qui sont parfois aussi rudes dans leur comportement. Très rude. Les lettres le disent très clairement. Et donc, il y a un effet de surprise. Puis, au fur et à mesure, il y a une désacralisation du Blanc, et y compris du missionnaire. Et il y a une forte incompréhension qui s'établit, parce qu'ils ont la tradition du don de tout ce qu'ils ont, n'ont pas la notion de la propriété à l'occidentale, la terre, ça ne compte pas. Ils sont eux-mêmes partis de la terre. Et le Blanc ne se comporte pas comme ça. Et les pères maristes, d'ailleurs, se posent la question, faut-il les payer? Faut-il leur faire des cadeaux? Etc. Et très vite, La notion de réciprocité n'existant pas, et eux n'ayant pas les moyens d'offrir quoi que ce soit en échange de quelques ignames ou de quelques tarots, il y a un certain mépris qui s'établit vis-à-vis d'eux. Ils ne nous donnent pas de fer, ils ne nous donnent pas de verroterie, ils ne nous donnent pas de ceci et cela. Par contre, ils nous donnent, je dirais, beaucoup de charité, des soins médicaux et de la gentillesse. Alors, il y a une espèce de mélange curieux qui s'établit d'estime et en même temps d'hostilité, qui conduit par exemple au massacre de Balade. C'est vrai que l'excès de richesse qui a été accumulé pour alimenter d'autres îles et autres, à un moment de famine, pousse certains chefs qui commencent à ne pas apprécier justement parce qu'on ne rend pas.
Oui, parce que de toute façon, là je sais qu'au niveau du potlache, donc le don et le contre-don, c'est pratiquement obligatoire dans ces populations.
Complètement.
On donne et on doit donner encore plus.
Un grand souci d'affrontement et d'incompréhension entre eux. Et voilà qui conduit à des affrontements très brutaux. À la clé, il y a les ambitions des chefs. On parle de rivalités tribales, de guerres tribales sont presque permanentes dans toutes les îles. Plus ou moins avancées, plus ou moins tardives dans certaines, mais ça dépend de chaque archipel, mais elles existent. Et l'arrivée des Blancs suscite de la part de chefs de tribu, que je qualifierais de plus intelligents ou de plus ouverts au monde occidental, à vouloir s'arroger le pouvoir général sur l'archipel. Ça existait déjà précédemment, c'était contrôlé plus ou moins par les rivalités tribales qui se neutralisaient, tandis que maintenant avec l'apport des armes, l'apport du fer, l'apport de techniques européennes et même de conseillers européens dans certains cas, ça conduit certains chefs à vouloir prendre le pouvoir et à s'imposer. C'est le cas à Hawaï avec le Kamehameha, c'est le cas à Tonga avec le fameux roi Georges, c'est le cas, si on veut bien faire attention, à Wallis, où Valéloi est contesté par un certain nombre de princes qui veulent le pouvoir, qui essayent de le lui prendre, et Monseigneur Bataillon, enfin le père Bataillon d'abord, puis ensuite Monseigneur Bataillon, va devoir manœuvrer de façon extrêmement habile au milieu pour essayer d'abord de survivre, de ne pas se faire assassiner par tel ou tel groupe qui lui est hostile, avant de finir par imposer le côté généreux des maristes, qui finit par l'emporter, en même temps que l'intérêt du roi. Mmh. Et alors, il y a ce genre de comportement qui vient se greffer en permanence en dessous et qui conditionne en grande partie ce que font les maristes. Et ça, c'est malgré leur volonté. Ils auraient bien voulu ne pas se mêler de ces affaires-là, mais ils y sont contraints parce que sinon ils seraient tous fait assassiner.
Est-ce qu'il y a des moments, on sent des moments de désespoir et perte de la spiritualité?
Alors on a des moments évidemment, les lettres font écho. Je dirais non pas de les pères ne doutent pas de leur mission en tant que telle. Ça, je crois que là-dessus, ils sont. Mais il y a des moments de découragement, je dirais simplement humain, dans la mesure où ils sont loin de leur famille. Ils ont parfois, je dirais, peu de contact avec leur évêque. Ils sont parfois dans des conditions sanitaires très difficiles. Il y a un nombre de maladies très importantes. Donc, on sent vraiment parfois des lettres. Nous avons sélectionné d'ailleurs quelques lettres qui témoignent de cette difficulté. Mais malgré tout, je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est quand même 3 tentatives, dont la 3e réussit, je dirais, pour implanter la mission. Hein. Et on y revient systématiquement. Il y a une volonté de tenir bon, vraiment, dans la plupart des territoires.
Est-ce qu'il leur arrive d'être confrontés, parce que là j'ai des souvenirs de ce qui se passe en Amérique du Nord entre les jésuites et les Indiens, enfin les Amérindiens, et très souvent les Amérindiens ne supportent pas cette religion chrétienne qui arrive, puisqu'on assassine finalement, moralement leur dieu. Est-ce qu'on a ce problème-là en Océanie?
Je crois que cela dépend des territoires. Mais en tout cas, pour les territoires polynésiens, ce qui est sûr, c'est que dans les conceptions religieuses déjà à l'époque des Polynésiens, les Polynésiens peuvent être qualifiés de polythéistes, mais en même temps avec un dieu fondateur à l'origine de tout. Donc un polythéisme qui s'orienterait finalement vers un monothéisme. Donc c'est ce qui explique sans doute que pour les territoires polynésiens, l'évangélisation va, je dirais, progresser plus rapidement. Pour les autres territoires après, il n'y a pas de haine vraiment pour ces pères, parce qu'à titre, je dirais, humain, ils peuvent, souvent d'ailleurs, ils ne partagent pas évidemment les conceptions religieuses, mais à titre humain, globalement, je dirais qu'ils arrivent quand même à se faire accepter. C'est parfois difficile, mais ils y arrivent quand même. Je dirais qu'il y a plusieurs phases dans la mission, là aussi. Selon les territoires, bon, il y a parfois des débuts très difficiles. En règle générale, ça reste difficile, mais finalement, les missions progressent, je dirais, assez rapidement, puisque si on parle notamment de Wallis et de Futuna, bon, ben, Futuna, c'est le martyr, martyr de Saint-Pierre Chanel, hein, mais bon, Chanel est mis à mort, d'ailleurs, pour des raisons plus politiques que religieuses, finalement. Mais suite au martyr, je dirais que l'île se convertit assez rapidement. En l'espace d'un an, toute l'île est devenue chrétienne.
Hein. Oui. Quand vous parlez de martyr, est-ce que c'est un martyr qui est considéré par Rome ?
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, il est canonisé même. Saint-Pierre Chanel est canonisé. Hein. Il est même, proto-martyr et saint patron de l'Océanie. Hein. Donc, c'est une figure, je dirais, importante pour les églises d'Océanie. Hein. Donc ça, c'est selon le territoire, évidemment. Ben, un petit mot peut-être aussi sur la mission, les conceptions face à la mission. Je dirais qu'il faut voir qu'ils sont très peu nombreux. Monseigneur Bataillon, dans les années 1840, il tient, son territoire avec une douzaine d'hommes. Alors, puisqu'on parlait, du continent américain, ça renvoie peut-être à une conception différente de la mission. Et c'est sans doute ce qu'on a découvert à travers ces documents. La plupart d'entre nous connaissaient mieux, l'histoire de l'évangélisation des Amériques. À savoir, on est dans un contexte complètement différent. On a évoqué, évidemment, le fait qu'il n'y avait pas de colonisation, pour une bonne partie des territoires, en tout cas, hormis la Nouvelle-Zélande, hein, de colonisation sur place, que les missionnaires sont les premiers à s'installer, qu'ils sont peu nombreux. Ça veut dire que dans cette évangélisation des territoires océaniens, les missionnaires ne peuvent pas tout faire. Et très rapidement, ils vont, chercher de l'aide auprès de catéchistes. Des catéchistes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont, être formés par eux pour aller répandre la bonne nouvelle. Et c'est sans doute un des traits très intéressants au niveau culturel, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une église, c'est pas une église catholique européenne qui va s'implanter, comme on a pu le voir de façon brutale dans les Amériques avec l'Espagne et le Portugal, mais il y a vraiment, dès le début, la naissance d'églises, d'inculturation finalement, d'églises océaniennes. Donc le rôle des catéchistes et le rôle là aussi, de ces catéchistes qui vont par exemple aller d'une île à l'autre, qui sont envoyés eux aussi en mission. Hein. C'est comme ça qu'on va former par exemple des chrétiens, des catholiques de Samoa sont envoyés à Wallis qui devient à Wallis et à Futuna. Hein. Les deux îles, les premières christianisées servent un peu, de zone de formation hein, et être renvoyés après, on renvoie ces océaniens vers leur île d'origine pour à leur tour servir la mission. Donc on est dans un schéma, là, qui est finalement assez original. Le fait d'avoir en face aussi des églises protestantes oblige là aussi à se poser des questions. Je pense notamment au rôle de l'imprimerie. Assez rapidement, il se trouve que l'on va évidemment diffuser des textes écrits dans les langues locales. Et certains pères sont d'ailleurs reconnus pour leur activité de rédaction, de grammaire de telle langue océanienne, hein, des dictionnaires français futuniens ou français wallisiens, hein, c'est Bataillon notamment qui s'en occupera. Donc il y a toute une production écrite et là aussi une traduction dans les langues locales, puisque l'évangélisation va se faire dans les langues océaniennes. Et le premier travail des pères, d'ailleurs, c'est d'apprendre ces langues océaniennes. Hein. Donc, dès le départ, une coloration, en tout cas océanienne. Il faut savoir que Monseigneur Bataillon, qui par ailleurs est un homme, une personnalité, assez remarquable, que sous forme de plaisanterie, que Bataillon est un peu à l'évêque missionnaire ce que Bujard pouvait être à l'armée française, hein, n'ayant peur de pas grand-chose, un homme de baroud, mais en même temps, Bataillon, exigeant avec lui et avec les autres aussi, Bataillon, c'est un de ceux qui émet l'idée, après tout, que dès le 19e siècle, hein, c'est assez remarquable, qu'il faut qu'il y ait des prêtres océaniens. Je ne pense pas qu'un gouvernement colonial au XIXe siècle, pour faire un parallèle, ait eu l'idée de se dire qu'il fallait des gouverneurs, qu'il fallait, dans l'administration coloniale, que les populations colonisées participent elles aussi. Donc il y a un côté assez novateur, finalement, à ce niveau-là.
Pourtant, on peut se poser la question, qu'est-ce que cherche Rome en envoyant ses missionnaires en Océanie ? Il n'y a pas une idée derrière la tête, autre que la christianisation ?
Non, il n'y a pas autant, on trouvera dans certaines églises, parfois pour certaines églises protestantes, on aura parfois, la mission et le commerce, il y a quelques liens, c'est vrai. Là, ce n'est pas le cas, il s'agit vraiment d'évangéliser les territoires qui ne le sont pas. Il faut bien voir qu'on est loin de Rome. que ben, dans le Pacifique, on va envoyer pour les catholiques, essentiellement à cette période-là, ce sont des Français. Hein. D'ailleurs, comme partout dans le monde au XIXe siècle, la plupart des missionnaires catholiques sont des missionnaires français. Donc, voilà, il s'agit simplement d'envoyer des missionnaires pour, dans des territoires où il n'y a pas encore de catholiques.
Alors, en fait, ces maristes ont une idée très positive de ces populations, parce que d'après un texte que vous m'avez lu tout à l'heure, que va lire Corinne tout de suite, ils trouvent que c'est beaucoup plus avantageux d'être là-bas, indigène là-bas, que ouvrier, par exemple, à Lyon. Vous pouvez me lire cet article, ce passage ?
Oui, alors, donc, nous avons un père qui écrit « Ne vaut-il pas mieux, mon révérend père, que ces gens-ci soient tels qu'ils sont, que d'être comme ces pauvres ouvriers d'Europe qui travaillent du matin au soir et n'ont pas un instant pour penser à leur salut ? Le travail est une bonne chose, mais il faut qu'il soit modéré. À Wallis, le travail est fini après le repas et le bain, c'est-à-dire vers les 4 heures. On peut employer alors le reste du jour, soit à visiter le Saint-Sacrement, soit à lire son catéchisme, soit à causer avec ses amis, soit à se recréer honnêtement. » Ainsi, l'âme peut s'exercer et profiter chaque jour aussi bien que le corps.
Je crois qu'en conclusion, on peut noter que ces lettres, finalement, nous ont montré qu'il n'y avait pas de modèle, hein, de portrait robot du missionnaire, mais une grande diversité humaine, des hommes en tout cas qui se sont passionnés réellement pour l'Océanie, hein, jusqu'à l'abnégation et parfois au sacrifice de leur vie. C'est l'histoire vraiment d'une passion pour ces populations et ce territoire.
Très bien, ben nous allons terminer cette émission parce que le temps passe, hein, ça fait pratiquement une heure. Je vous remercie tous les trois d'être venus. Cet ouvrage va sortir.
Alors, oui,
à partir de quand ?
L'ouvrage va sortir donc cet automne. Hein, cette anthologie va sortir à cet automne aux éditions Cartala. Donc ce sera l'occasion pour ceux qui veulent découvrir et rentrer dans ces textes vraiment très intéressants de les lire. Hein. C'est un travail donc important puisqu'il y a quand même près de 600 pages avec une iconographie de belle qualité puisqu'il s'agit notamment de dessins, hein, qui ont été faits à cette époque-là, au XIXe siècle, par un mariste qui était par ailleurs dessinateur et peintre.
Voilà, donc ces lettres reçues d'Océanie par l'administration générale des pères maristes entre 1836 et 1854, donc qui va sortir cet automne. Je vous remercie tous les trois, j'espère vous revoir très bientôt pour un autre grand projet. Autre radio, autre culture, à bientôt. Autre radio, autre culture.